RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC à télécharger tous les mardis, sauf quand il y a un match 5, le mardi évidemment, parce qu'on n'allait pas faire un épisode qui allait être cramé au bout de 2 heures. Donc aujourd'hui, cette semaine, c'est mercredi.
C'est intelligent.
Smart, baby.
Smart, vraiment, boom, Piero.
Vous avez le Marcus Smart des podcasts face à vous.
Ouais, ça se voit.
Alors, nous sommes avec, vous avez reconnu leur voix,
Fred Dumber, Dace
et Alexandre Biggerstaff, ainsi que Félix Gabory depuis San Antonio. Salut Félix.
Hello tout le monde.
Salut Félix.
Salut,
salut Pierrot,
Félix. Salut Fred.
C'est bonjour. Évidemment un spécial fin de saison, comme c'est le cas depuis maintenant 3 semaines. Les Spurs sont dos au mur, sont-ils capables de le faire? C'est notre premier débat. Et puis, New York sera-t-il vraiment outsider en finale? Quel que soit l'adversaire, évidemment. Dans la partie historique, vous allez me parler d'équipes vicieuses comme OKC. OKC est une équipe vicieuse, Alex?
Non, pas tellement.
Un peu.
Fred?
Ils jouent avec les règles.
Ils sont malins, on va dire.
Ils sont malins,
très
ouais.
Malins. Sont malins.
Très malins. Félix, qu'est-ce qu'on dit là-bas d'OKC?
Bah, là-bas, à chaque match, à chaque faute sifflée sur Shai Gilgeous-Alexander, il y a toute la salle, 18 000 personnes qui chantent en chœur « flopper, flopper ». Donc voilà, t'as ta réponse.
C'est pas un flopper, Shai, quand même, non?
Ah, bah, de la vie des fans
c'est
des
pas
Spurs.
C'est pas Rudy Fernandez.
La question philosophique,
quoi.
C'est est-ce que flopper, c'est
putain,
vicieux
Jordi
ou intelligent
quoi.
Ah, ça fait partie du vice, hein, le flopping, hein, moi, je trouve.
Est-ce
ça,
que Shai est un flopper? J'ai peut-être changé la question Mesmer, mais là vous l'avez à l'avance. Alors bon,
bah change-la alors.
Non, parce que j'ai pas la réponse. Ah ouais. Je sais pas. Il y aura un quiz en tout cas.
De toute façon, Félix non plus n'a pas la réponse, donc c'est bon.
Et toi, tu l'as?
J'ai jamais la réponse, de toute façon, à la question Mesmer. Donc
de toute façon,
c'est le principe. C'est le principe.
Sinon, vous savez ce qu'on fait? Je la pose, j'attends la réponse de Félix et après je me décide.
Et tu dis l'inverse.
Allez, c'est parti. D'abord, on parle des Spurs.
Moses Alexander, now the ball handler, McCain lifting, launching, banking a three! Moses Alexander, two-man game at Hartenstein, Caruso, corner, triple! Bismack Biyombo and Mason Plumlee pull off the sweats. And that means San Antonio going to take their ball and go home for game 6. Fans react as Wembanyama checks out on a 4-15 night. Game number 5 to the Thunder.
Allez, OKC mène 3-2 dans cette finale de l'Ouest. Match 6 à San Antonio dans la nuit de jeudi à vendredi. Match 7 éventuel à OKC dans la nuit de samedi à dimanche. Et finalement, c'est assez logique ce score de 3-2. Wemby ne fait pas un bon match 5. Alors, est-ce que les Spurs et Victor Wembanyama sont capables de faire cet exploit-là, de renverser la série et de la gagner en 7? On va en débattre tout de suite. Fred, quand je dis que c'est assez logique, tu es d'accord avec moi?
Je sais pas si c'est logique parce qu'on a vu les. Alors ça dépend, tu me poses la question sur le match ou sur la série en général?
Les deux.
Sur le match, c'est logique, oui, parce qu'on a vu une équipe de San Antonio sans essence, complètement à l'arrêt.
Ils ont
tenu une
mi-temps, hein.
Très, très dur physiquement, manque d'intensité, manque d'énergie, notamment Victor qui est le leader incontesté de cette équipe. Et c'est vrai que quand il commence bien les matchs, quand il apporte dès le début, les autres suivent. Et là, c'est vrai que Vassell et Fox ont été très en difficulté aussi. C'était un match très compliqué et logiquement, même s'ils ont, je trouve, pas super bien joué au Casey non plus, mais ils étaient au-dessus sur ce match. Et après, sur la série, on a une équipe de Casey qui apprend de ses erreurs, qui ne perd jamais 2 matchs de suite, qui a cette capacité de rebondir à chaque fois et qui trouve des solutions. C'est une partie d'échec, Victor l'a dit plusieurs fois, lui qui est un joueur d'échec pas mauvais. Apparemment, pas si bon que ça, mais pas mauvais. Mais c'est intéressant de voir que les coachs s'ajustent, que par exemple, Marc Degnaud fait jouer McCain en début. Quand tu sais le match 4 qu'a fait McCain, à 1 sur 10, tu te dis il ne va pas le faire entrer. Et au contraire, pour le remettre en confiance, pour le relancer, il le fait jouer. Alors, ça ne porte pas ses fruits directement, mais sur la deuxième mi-temps, il met 18 points. Donc, ça veut dire qu'il sait qu'il a la confiance du coach. Il y a une équipe, quand les role-players trouvent des solutions du côté d'OKC, c'est très compliqué à arrêter aussi. Caruso, il marche sur l'eau. Caruso, il a marqué plus de 3 points dans une finale de conférence que Mike Pietrus, 17. Lui, il en a marqué 18 déjà. Donc Caruso apporte ce qu'il n'était pas censé apporter. C'est une équipe complète. Jalen Williams, on pensait qu'il avait manqué énormément à Jimmy Chay aussi. Finalement, on trouve des solutions. C'est assez logique, oui, mais les Spurs ont fait quand même.
Je trouve que globalement, ils dégagent
une sérénité. Moi, je trouve qu'ils dégagent une sérénité.
Ils ont l'air plus forts, en fait.
Et ils ont l'air plus frais, surtout. Moi, je trouve qu'ils ont l'air plus frais. En fait, il y a tellement de bancs, il y a tellement de joueurs capables de prendre le relais sur OKC que bah, ils ont l'air plus frais sur le terrain. Tout ça.
Alex.
Ouais, bah c'est la démonstration du rouleau compresseur en fait qu'on est tous en train de voir se mettre en marche. Parce que le match 1 a un petit peu faussé toutes les idées, je pense, sur cette série. Tant la domination des Spurs était exceptionnellement lourde. Et en fait, on s'est un peu mis les curseurs là-dessus. Sauf que non, Oklahoma City avait aussi patienté avant de rejouer. Ça a certainement dû jouer dans leur manière de progresser dans cette série. Alors, il y a eu la démonstration lors du dernier match avant celui de cette nuit qui était clairement du côté des Spurs. Mais encore une fois, OKC est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de bancs, qui a beaucoup plus de savoir-faire à ce niveau-là. Et ils sont en train de le montrer. Les ajustements de Marc Desnaux sont quand même exceptionnels, je trouve, dans cette série par rapport au... Franchement, je suis désolé, la branlée qu'OKC a pris sur le match précédent, de pouvoir répondre de cette manière-là. Parce que quand tu regardes le début du match, tu as l'impression que les Spurs sont dedans, mais tu te poses une petite question. En fait, tu regardes les caractères et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, là, San Antonio, ils peuvent marquer le coup, ils peuvent prendre deux matchs de suite d'affilée, et je l'ai trouvé emprunté. Je me dis, c'est pas possible, ils peuvent être empruntés sur un match aussi décisif comme ça, de série, pas cette équipe-là qui a progressé tout au long de l'année. Et en fait, c'était pas emprunté du tout. En fait, ils sont lessivés, ils sont cuits, les Spurs. Ils sont cuits dans la tête
et définitif.
C'est peut-être pas définitif. Je dis pas qu'ils vont pas gagner le match 6. Mais là, sur ce match-là, ils étaient cuits. Ils ont payé le coup, en fait. Et OKC a très bien rentabilisé ça, puisque cette équipe-là a montré tout au long de la saison qu'elle était capable d'allumer les autres sur les tirs à mi-distance, notamment. Et on ne l'avait pas trop vu sur les premiers matchs de la série. Et hier, ils y sont allés à mi-distance. Hein. Et ils les ont mis les shoots sur la tête. Et parce que Victor, en fait, n'arrivait pas à influencer aussi avec sa capacité à contrer tout ce qui bouge de la même manière que sur les autres matchs. Et ça s'est vu hier. Et puis, comme le disait Fred, en fait, tu as des blessés du côté d'Oklahoma City, mais Marc Desnaux, il appuie sur un bouton. Et là, tout d'un coup, tu as Kenrick Williams, que tu as très peu vu sur le début de la série. Il rentre, il met des shoots à 3 points, il met des bumps, il prend des rebonds. Enfin, tu te dis, c'est illimité, en fait, ce qu'ils ont.
Est-ce que tu as la même vision depuis San Antonio, Félix?
Moi, l'impression que j'ai, c'est que OKC a, et je suis d'accord avec ces messieurs, OKC a plus de capacité d'ajustement, on a l'impression. Comme l'a dit Fred, ils ont jamais perdu deux matchs de suite dans cette série. Et tu sens qu'eux, à chaque fois, ils sont capables de trouver des solutions. Là où les Spurs, tu as l'impression qu'ils ont moins cette capacité-là. D'ailleurs, quand on leur a posé la question à tous les joueurs des Spurs ou même au coach, après la grosse victoire des Spurs dans le match 4, moi notamment, ma question à Victor Wembanyama, ça a été de lui demander Victor, c'était quoi pour toi l'ajustement, le principal ajustement entre le match 3 et 4 Il m'a répondu que pour lui, justement, il n'y avait pas eu d'ajustement, qu'ils avaient juste fait ce qu'ils savaient faire, mais en mieux, et qu'ils avaient juste été meilleurs. Et en fait, tu as un peu cette impression-là que les Spurs ne sont pas capables de ils n'ont pas les armes pour répondre tactiquement, pour pouvoir sortir des joueurs de leur chapeau ou des ajustements. Ils sont obligés à chaque fois de jouer à leur meilleur niveau. Donc, ils ont une ADN qui est assez impressionnante, notamment en termes d'intensité défensive, en termes de pouvoir aller marquer des paniers en transition grâce à leur grosse intensité. Ça, c'est hyper important pour les Spurs. Mais quand ils sont dans un soir un peu moins bien, ils n'arrivent pas justement à embêter OKC. Donc j'ai vraiment cette impression-là d'avoir moins de capacité d'ajustement pour
c'est
les
Spurs. C'est le plus mauvais match pour vous de Wemby
Wemby, c'était très compliqué. Non, il y a eu le match 2 qui avait été très compliqué où il se faisait aussi. Il s'était fait beaucoup taper dessus, justement. On avait les gros débats après ce match-là. C'était la défense, un peu la limite d'Hartenstein. Mais là, oui, ça a été très compliqué.
Là, il y a l'attitude en plus, Félix, par rapport au
match
2.
Ouais, c'est ça. Là, c'était la première fois depuis le début de la série et quasiment la première fois depuis toute la saison NBA que Victor Wembanyama ne se présentait pas face aux médias après le match.
J'ai cru qu'il était malade, qu'il avait la grippe ou une gastro, hein, tellement il était l'esprit n'était pas là. Quoi.
C'est alors, il ne prend pas les shoots pendant les trois quarts du match déjà.
Mais déjà, il met très longtemps pour prendre
son
premier shoot.
Il vient pas dans la raquette.
Il parle pas. Il a été c'est un super bon communicant depuis le début de la série, leader.
On le dit depuis le début.
Il a pas parlé sur ce dernier match.
On le dit depuis le début. En fait,
comme s'il avait une gastro.
L'influence de Victor, c'est vraiment sur le terrain, bien sûr, et l'impact qu'il a défensivement, offensivement. Mais je trouvais qu'il avait énormément progressé comme leader. Il amenait tout le monde. Il avait cette énergie. Vraiment, on l'a trouvé.
Sans énergie,
flex devant son
énergie,
banc.
Ouais. Alors, mais t'as vu, même de la frustration, quand il regagne son banc et qu'il donne un coup d'épaule à Chet, complètement inutile, en fait, c'est perdre de l'énergie pour rien. Donc tu sens qu'il n'est pas à 100%.
Et d'ailleurs, les critiques sont rudes, hein, Félix.
Ouais, ouais, bah franchement, évidemment, déjà avec le fait de ne pas se présenter face à la presse, ça fait un petit peu tiquer. Mais oui, oui, tout le monde se pose la question ici de bah, qu'est-ce qui est arrivé à Victor Wembanyama. T'as notamment Kedrin Perkins, évidemment, l'ancien joueur qui est maintenant qui est consultant sur ESPN, consultant star, qui a été vraiment hyper dur avec lui après le match.
Déjà, je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais Wemby s'est fait ridiculiser ce soir. Oui, il s'est fait dominer. Isaiah Hartenstein l'a malmené des deux côtés du terrain au fil du match. On a commencé à voir pour la première fois que Wemby avait l'air fatigué. Il n'avait plus de jambes et c'est à cause de l'impact physique imposé par les deux pivots du Oklahoma City Thunder.
Bon, déjà, Kendrick Perkins, faut qu'il se calme.
Non. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre dans la catégorie des superstars Victor Wembanyama et ne pas s'attendre à ce qu'il ait des critiques quand c'est un peu moins bien.
Surtout qu'on disait en début de série qu'Artenstein allait souffrir.
Mais oui, mais d'ailleurs, sur le premier match, il souffre parce que même son coach le sort et il ne trouve pas de solution. Sauf que là, moi, je l'ai vu défendre. Non seulement il fait quelques fautes, il l'attrape, il est dur physiquement, mais je trouve que dans ses déplacements latéraux, il est rapide, il a les mains actives, il le gêne de bout en bout. Et quand il sort, je trouve qu'il y a un Jalen Williams qui peut défendre sur lui. Donc en fait, on l'impacte à chaque fois. Il y a des aides. C'est épuisant. Je pense que ce qui est dit là, c'est un petit peu dur, oui, mais c'est logique par rapport à son statut. Il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit, mais quand même, il n'a pas fait le match qu'il devait faire.
Un mec qui a failli gagner le MVP, il va forcément avoir des critiques doublées.
Évidemment,
hein,
mais dans l'absolu, il n'a pas complètement tort. On a vu un Victor Wembanyama fatigué.
Petite parenthèse personnelle, est-ce que c'est normal que je trouve que le shoot d'Hartenstein horrible?
Alors, petite touche personnelle, tu as raison.
Ok, ça me rassure.
C'est vraiment
pas
beau.
Le plus élégant, Hartenstein.
Mais il est très efficace. Flotteur.
Très haut, là.
Après, il est obligé de monter très haut quand Victor arrive. Hein.
Ouais, mais il le fait même quand il n'est pas là. Hein.
Ouais, mais il le monte un peu plus haut encore.
Même si c'est TJ Shorts en face, il fait le même. Hein.
Mais il est hyper efficace, Hartenstein, notamment en match 4. Ouais. Je crois qu'il met 8 points de suite.
Il met les 4 premiers paniers de
c'est le même flotteur comme ça.
Exactement. Après, est-ce que vous les imaginez encore capables de l'exploit, les Spurs? Alex?
L'exploit de se qualifier ?
Oui, de se qualifier, oui. On s'en fout de perdre en 7.
L'exploit de se qualifier, non. Je pense qu'ils peuvent accrocher la série pour aller en match 7. Donc, je pense qu'ils peuvent gagner le prochain match. Mais
c'est trop fort en face ?
Je ne vois pas les Spurs s'imposer à Oklahoma pour le match 7.
C'est pas juste un match raté, là, le 5 ?
Non, c'est aussi des conséquences.
Tu crois ?
Oui. Mais c'est symptomatique d'une fatigue, d'un épuisement physique, mental, d'un groupe qui manque d'expérience aussi. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'ils... Dans l'absolu, ils pourraient gagner les matchs. Dans l'absolu, oui. Sauf que de l'autre côté, on a une équipe qui est hyper sereine, hyper sérieuse, moins attaquée physiquement. Et je pense que même à San Antonio, ils ne gagneront pas. Je crois qu'ils n'ont plus le jus.
Ton équipe, sur une rotation aussi courte, en fait, c'est déjà exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire.
Oui.
On a du mal à avoir du recul là-dessus, mais c'est déjà exceptionnel avec le peu de joueurs qu'ils ont.
Vraiment ?
Oui, et quand je dis peu de joueurs, c'est parce pas la taille de l'effectif, c'est l'utilisation de ce que tu peux faire des joueurs.
Okay, ouais, parce qu'il y a quand même des joueurs dans cette équipe.
Oui, il y a des très bons joueurs.
Il y a des bonnes surprises, Carter Bryant, quand même Kelton Johnson, il n'y a pas si longtemps que ça.
Tu fais jouer Victor autour des 40 minutes parce qu'il n'a pas de remplaçant.
Il y a Luke Kornet.
Luke Kornet n'est pas invité à la fête. Hein.
Ouais. Pas invité à la fête. Pas net, là.
Le problème, c'est que là, pour le coup, lui, il souffre vraiment face aux deux.
Ah, en même temps, c'est pas simple. Objectivement, les deux, quand ils sont très bons, ils sont vraiment très bons.
Je pense que tu peux regarder 10 possessions d'affilée des Spurs quand Kornet est sur le parquet, il finit au sol à chaque fois en attaque. Hein.
Tu crois pas non plus, Fred ?
Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Et vraiment, je suis même pas sûr qu'ils aient. En fait, ça dépend. Parce que vraiment, quand on prend chaque match, ils ont tous été différents. Les uns après les autres, ils ont tous été différents. Et tout le monde a fait des ajustements. Sauf que l'épuisement que j'ai vu. Je ne sais pas comment ils pourraient récupérer. S'ils ont peut-être des trucs un petit peu fantastiques du côté de San Antonio pour récupérer plus vite, peut-être. Mais sinon, je ne vois pas comment.
Félix, il a souvent des avis disruptifs et il a toujours raison dans ces cas-là. Donc, est-ce que tu y crois, Félix ?
Bah, moi, avant cette série, j'avais misé sur un 4-2 pour OKC. Donc, malheureusement, là, on est plutôt proche. Ça va être très dur, hein, le match 6 à San Antonio pour les Spurs de réussir à rester en vie dans cette série. Je les sens quand même capables de gagner ce match 6 à domicile parce qu'on l'a très bien vu depuis le début de la série à chaque fois. Et de toute façon, c'est la vérité aussi sur les séries de play-off. À chaque fois, la vérité d'un match, c'est jamais celle du suivant. Donc peut-être que dans un dernier élan, dans un dernier souffle, ils peuvent aller chercher ce match 6 un petit peu au forceps grâce au public, mais dans tous les cas un match 7 à OKC à l'extérieur face aux champions en titre, ça sera très très compliqué.
Non mais si là on est à peu près d'accord que OKC va venir pour mettre les clous dans le cercueil à San Antonio.
Ah bah oui, bien sûr,
donc
bien
le
sûr.
Match 6 peut encore changer la série parce que s'ils le prennent les Spurs après, ben, la dynamique change de nouveau.
Oui, sur un match 7, la pression théorique va sur OKC, évidemment, parce que tu es à la maison et logiquement, le champion à la maison sur un match 7 doit s'imposer.
Gagner.
Sauf que c'est le physique pour moi qui va primer. Et Alex a très bien dit, sur l'utilisation des joueurs, je suis désolé, il n'y a pas photo dans les deux équipes en fait.
Le physique va primer, l'arbitrage a été important tout au long de cette série aussi, et sur un match 7 à Oklahoma City. Voilà.
Et qu'est-ce que vous en... Dernière chose, qu'est-ce que vous attendez de Wemby sur le match 6 ?
Qu'il soit agressif dès le début, qu'il se dise que c'est peut-être le dernier match qu'il va jouer de la saison. Qu'il soit agressif dès le début, que directement il amène avec lui tout le monde. C'est son rôle de leader. Je sais que ce n'est pas facile. Encore une fois, il l'a fait tellement souvent que ce n'est pas facile de le reproduire parce qu'il a un traitement de superstar maintenant, défensivement. Mais il faut qu'il amène tout le monde sur son dos, en fait.
Est-ce que c'est pas. Enfin, la clé, ce ne serait pas l'inverse de ce qu'a expliqué Félix, c'est-à-dire qu'il s'adapte. C'est-à-dire que comme on envoie des gars à la chaîne sur Wembanyama qui trouvent le moyen de servir des partenaires ouverts.
Moi, je pense que j'attends juste de l'attitude. Je m'en fous.
Juste l'attitude.
Ouais. C'est, en fait, s'il a l'attitude que l'on souhaite, et je pense qu'il peut déranger Oklahoma City sur le match 6.
Il a jamais déçu dans des matchs hyper compliqués de ce type.
Oui, et puis à chaque fois qu'il a eu un faux pas, en fait, il a rebondi de manière incroyable derrière. Mais je pense que déjà, s'il rentre dans la raquette d'OKC et qu'il met des coups et qu'il leur marche dessus avec de la réussite, déjà, il aura gagné.
Félix, tu crois qu'il va y avoir de l'adaptation ou pas ?
Tu parlais de mon avis, c'est pas moi qui pense qu'il n'y a pas d'adaptation, c'est eux-mêmes qui te le
disent. Oui, c'est ça, ils en ont l'intention ou pas ?
En fait, quand tu les écoutes en conf de presse, que ce soit les joueurs, les coachs, ils te disent tous, nous, on veut rester fidèles à notre plan et fidèles à qui on est. Après, est-ce que c'est aussi un petit aveu de faiblesse et d'impuissance parce qu'ils n'ont pas les armes ? Mais t'as un peu l'impression quand tu les écoutes, alors peut-être qu'ils sont au bluff total, hein, mais quand tu les écoutes, t'as quand même l'impression qu'ils ont envie de mourir avec leurs idées et de mourir avec cet ADN-là. Et après, voilà, la grande question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de s'adapter ? D'ailleurs, les gars, ils en parlaient. Je suis assez d'accord sur la profondeur d'effectifs. Là, tu te rends compte qu'avec des garçons sur le banc comme Luke Kornet, qui souffre énormément, ou même un Keldon Johnson qui était un peu mieux dans le match 5, mais qui souffre aussi depuis le début de la série, est-ce que t'as vraiment les armes pour proposer autre chose ? Est adapté, je suis pas sûr quoi.
Et est-ce qu'il leur manque pas juste des gâchettes à 3 points ? Parce qu'en fait, toutes les bonnes équipes actuellement ont 2, 3, 4 mecs qui sont capables de rentrer des gros shoots à 3 points.
Ils sont censés les avoir et il manque plus de poste 4. Mais juste pour revenir sur ce que disait Félix, en tout cas ce que disent les joueurs de San Antonio, je suis pas d'accord avec eux. Hein. Ils sont adaptés sur le match 4. Défensivement, ils sont adaptés. Au lieu de faire des prises à deux systématiques sur Shea, ils ont laissé plutôt du 1 contre 1. Les aides sont venues un petit peu plus, de façon plus éparse et ça leur a permis justement de gagner plus de ballons, d'embêter un petit peu tout le monde. Et comme ils n'ont pas trouvé des shoots ouverts aussi facilement, ils ont été moins adroits.
C'est pas mourir avec ses idées que de moins dribbler, de moins s'isoler sur des pertes de balles stupides.
Ça s'appelle le basket.
Il y en a eu beaucoup
ça.
De la part de Stephen Castle sur le dernier match, encore une fois. Ouais. Il est formidable ce garçon, mais j'ai envie aussi de le voir s'adapter.
C'est encore un gamin. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est encore un gamin. Et tu le vois en fait sur la série. Il y a des petits ajustements que les Spurs peuvent faire sans être contre nature de ce qu'ils ont fait toute la saison.
Clairement. Basket Time spécial fin de saison, on passe à New York.